Le sujet du jour est un dictionnaire pour les communicants, qui pourrait bien servir aussi aux non-communicants. Un petit ouvrage et une grande ambition, un livre utile écrit par Frédéric Fougerat, directeur de la communication chez Foncia. Le Dico de la Com, dictionnaire de référence des mots de la communication. La communication est un métier passionnant, exercé par des passionnés, qui ont parfois tendance à recourir à un jargon malheureusement un peu abscon. C'est un euphémisme. Frédéric aussi est un passionné. Mais il a fait œuvre utile en se mettant à la hauteur des non-communicants qui aimeraient mieux communiquer avec les communicants. Bref, une histoire de communicants et ce n'est pas une nouvelle chanson de Maurice Chevalier. Dans cette courte interview, j'ai soumis à Frédéric 5 termes issus de son dictionnaire afin d'en démontrer l'intérêt par l'exemple.
Des interviews, des chiffres, des faits. Des études, pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Bonjour, je suis Yann Gourvenec. Aujourd'hui, nous allons parler du dictionnaire de la com, un dictionnaire pour les communicants et les non-communicants avec Frédéric Fougerat, directeur de la communication de Foncia et auteur de cet ouvrage. Alors je suis avec Frédéric Fougerat. Frédéric, doit-on vous présenter ? Vous êtes directeur de la communication chez Foncia et vous avez publié un nouveau livre, Le Dico de la communication. C'est intéressant ça, il y avait besoin d'un dictionnaire pour la communication, ils comprennent pas forcément tous les mots les communicants ?
Moi, en fait, j'ai toujours regretté. Ça fait 36 ans que je suis DIRCOM. Ça fait pas très jeune. Et quelque part, j'ai toujours regretté de ne pas disposer d'un ouvrage de référence, si on peut dire, de notre vocabulaire de la communication. Et c'est un peu de cette réflexion et ce besoin personnel qui a donné naissance à ce dictionnaire. Alors. Est-ce que les communicants ont besoin d'un dictionnaire ? Déjà, il y a sans cesse des nouveaux mots hein, dans la communication. On les manipule parfois de façon approximative. Il y a des mots auxquels on donne pas toujours le même sens ou la même intention. Ce livre me permet, en tout cas, moi, de partager une proposition pour ces mots, et puis aussi de clarifier certaines définitions, et puis plus simplement aussi de mettre à jour mes connaissances. Mm-hmm. Je pense aussi qu'on peut dire que dans la communication, les métiers sont multiples. Quand on est dans les relations presse, on n'utilise pas le même jargon que dans la publicité, dans l'imprimerie, dans le digital, dans la communication financière. Mm-hmm. On doit parfois passer de l'un à l'autre. Tout le monde n'est pas expert de tous les métiers. Donc parfois on retrouve des gens qui sont autour d'une même table, mais qui sont issus de métiers différents, donc qui eux ne partagent pas forcément la même expérience ou le même jargon. Donc voilà, je pense que c'était bien utile pour la profession. Et puis si je peux rajouter, moi j'aime en fait les dictionnaires. J'aime les consulter, les parcourir, les toucher. Hein. Mmh. J'aime le livre et j'aime plus particulièrement le dictionnaire. Donc puis voilà, feuilleter, découvrir des mots de façon aléatoire. Donc voilà, un dictionnaire, c'était une belle idée et pour son utilité et pour le plaisir de pouvoir le parcourir.
C'est cet amour du livre d'ailleurs qui vous l'a fait publier chez Studirama et on ne peut que acquiescer. Et c'est pour ça que vous n'en l'avez pas transformé en glossaire en ligne, parce qu'on aurait pu faire ça aussi.
Ben oui, mais alors c'était justement ce que j'avais pas envie de faire. Moi, j'aime pas aller sur le dictionnaire. Enfin, je suis vieux jeu, hein. Peut-être même vieux con, mais je suis vraiment un utilisateur du web et des réseaux sociaux. Je pense pas avoir à le prouver, mais vraiment un dictionnaire pour moi, c'est pas. Je vais régulièrement consulter des informations et même des dicos, mais ce plaisir d'avoir un dictionnaire en main, de l'avoir sur le bureau, de le reprendre 10 fois dans la journée. Moi, j'ai des bouquins de référence que notamment sur la typographie, par exemple. Je vais pas toutes les 5 minutes sur Google pour vérifier une règle d'écriture typographique. J'ai plusieurs livres sur la typographie et voilà, et c'est aussi un plaisir, peut-être même une coupure, peut-être une pause, une respiration dans ma journée, que de prendre ce plaisir de prendre le livre et d'aller vérifier une information. Donc voilà, j'ai pensé ce dictionnaire de la même façon.
Alors ce dictionnaire, il va quand même évoluer, je suppose, dans le temps, parce que la communication, ça bouge.
Ah ben c'est quelque part c'est bien le problème, c'est que les métiers de la com ils ne cessent d'évoluer, c'est en permanence et en plus c'est très rapide. Ça, on peut se lier notamment aux nouvelles technologies, mais aussi à plein de métiers qui se créent, qui s'inventent, donc souvent liés à la techno, mais pas forcément. Et d'ailleurs, dès le rendu du manuscrit à mon éditeur, j'ai commencé à enrichir une seconde édition en intégrant des nouveaux mots, des nouvelles définitions, ou en venant enrichir des définitions qui existaient déjà. Donc oui, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, c'est l'éditeur qui un jour m'a dit bon, non, faut rendre le manuscrit à telle date parce que sinon j'y serai toujours et de façon indéfinie puisque ça ne s'arrête jamais quoi. Alors j'ai déjà plein de nouveaux mots ou de mots manquants qui pourront intégrer la prochaine édition.
C'est clair qu'on ne manque pas de jargon dans le métier. Quelque part le dico il peut aussi servir aux non communicants, à ceux avec qui on travaille et qui ne sont pas des professionnels du domaine et qui comprennent pas tout ce qu'on dit non plus.
Mais moi parfaitement. Enfin, moi je l'ai voulu très facile d'accès, autant à des professionnels qui peuvent vouloir s'y référer qu'à des étudiants qui ont besoin de découvrir ou compléter leurs connaissances et, ou des curieux qui aiment les livres, qui ont envie de découvrir l'histoire, la culture, l'environnement des métiers de la communication. J'ai déjà croisé des lecteurs ou des conjoints ou enfants de lecteurs qui m'ont dit ah ben voilà, mon mari, ma femme, papa, maman ont acheté ton dico et ben j'ai trouvé ça super sympa, ça me plaît de le parcourir. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Bien. Et je l'ai pensé dans ce sens-là, j'ai pas pensé comme quelque chose d'extrêmement scientifique et universitaire qui ne s'adresserait qu'à des experts et à des spécialistes.
Ah, c'est vrai, je peux confirmer pour l'avoir aussi parcouru qu'il est très abordable et pour le démontrer à nos auditeurs, eh bien quoi de mieux que quelques exemples. Nous avons pris 5 mots de votre dictionnaire. Alors on va indiquer les pages. Alors comme ça, si les auditeurs ont acheté le bouquin, ils peuvent vite feuilleter pour retrouver la définition. Alors on va commencer par un mot qui m'a interpellé à la page 39. La communication faciale facile, une jolie allitération.
Alors, la communication faciale facile, je vous lis la définition, c'est l'expression désignant un petit coup de communication basé sur un effet efficace immédiat et non sur des éléments ou un contenu qui assurerait une promotion durable de la marque. Alors, en fait, c'est une expression que j'ai inventée il y a quelques temps. J'ai plaisir parfois de la découvrir dans des tribunes ou dans des propos tenus par d'autres communicants. Donc voilà, c'est le petit coup de com qui fait un petit effet immédiat et qui fait plaisir, mais qui n'est pas très durable dans le temps. Donc c'est pas de la grande communication. Mmh. Et puis c'est aussi ce que j'appelle un de mes mots signature dans le dictionnaire, c'est qu'il y a quelques expressions qui m'appartiennent. Donc si je les retrouve ailleurs, je saurai que j'ai été copié. Quoi. Même si une fois que c'est lancé, je considère que c'est aussi dans le langage public maintenant de chacun. Mais
alors ça... pour donner un exemple et que ça soit encore plus concret, on pourrait dire peut-être le coup du carambar avec la disparition des blagues, ou c'était peut-être bien malabar d'ailleurs, je ne me souviens plus.
Carambar, ce sont les blagues. Enfin, les blagues, c'est carambar, pardon. Oui, ça c'est un coup de conne. Les petits coups de communication faciale facile, c'est parfois souvent en politique. Ou une petite mesquinerie, une petite vacherie ici ou là, fait que voilà, on a son petit moment de gloire ou de satisfaction, mais enfin le citoyen ou l'électeur, il n'en retient rien, en tout cas pas durablement, et c'est pas ce qui participe à la grandeur du politique que de faire ce genre de petits goûts. Mais il y en a aussi dans l'entreprise, il y en a partout. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est la petite satisfaction immédiate pour celui qui le fait, pour la marque, pour sa notoriété, mais qui finalement disparaît à peu près aussi vite qu'il est arrivé.
Alors et la question.
Moi, je suis plutôt un communicant qui travaille sur la durée.
Sur la durée.
Sur la notoriété, sur la valeur de la marque et j'essaye de m'affranchir de ce D'accord. petit genre de coup, même si on peut parfaitement m'en attribuer certains.
Alors la question à l'expert. Le coup de pub de Renault sur la voiture qui est bridée à 180 à l'heure, c'est un coup de comment dire communication faciale facile ou c'est du vrai long terme?
Je suis pas certain de connaître l'intention qui était la leur. Pour moi, ça fait plutôt partie d'une communication globale d'entreprise ou de marque.
Bon, on jettera un voile pudique. En fait, on n'en sait pas trop. On verra bien. Mais je ne serais pas étonné que ce soit un petit coup de communication faciale facile.
Alors, à la page 115, le marketing furtif. Alors là, on connaissait les attaques furtives dans l'armée, mais maintenant, le marketing furtif, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ?
Ben, le marketing furtif, c'est une technique consistant à promouvoir une marque, ses offres et ses produits sans que l'émetteur du message puisse être identifié. La marque communique indirectement par le biais des réseaux sociaux, de forums, de blogs ou en exploitant ses avis clients favorables. C'est-à-dire, par exemple, pour un soda, inutile d'en citer, certains viennent directement à l'esprit, ben, ça va être la technique de communication qui va permettre de montrer le soda sous forme de placement de produit ou en montrant ses consommateurs en train d'être heureux, d'être cool, de paraître branché, d'être émerveillé par la vie, mais sans que ce soit la marque qui prenne la parole, sans que ce soit la marque qui délivre un discours. Ce sont ces consommateurs qui parlent pour elle sur leur propre réseau ou sur des réseaux professionnels, mais sans que la marque soit identifiée, sans que la marque n'intervienne directement.
Donc le marketing du bouche à oreille, c'est du marketing furtif.
Exactement. Mais le marketing du bouche à oreille, il est pas nécessairement natif de par lui-même. Il peut parfaitement être orchestré par la marque, mais la marque n'apparaîtra pas comme étant comme intervenant dans cette transmission d'informations.
Alors par contre, pour la clarté et pour le respect de la loi, on rappelle à tout le monde que le défaut de transparence est interdit et illégal. Hein, donc vous verrez d'ailleurs sur Visionary Marketing, quand on écrit pour une marque, on l'indique clairement, c'est obligatoire.
Et c'est tout à fait obligatoire, mais c'est vrai que sur le marketing furtif, là on est relativement dans un vide juridique, puisque l'intervention ou la commande de la marque n'est pas forcément avérée ou évidente. Et il peut y avoir la tromperie, effectivement.
D'accord. Bon, on est un peu des extrémistes, on a un peu tendance à appeler ça un défaut de transparence. Mais enfin bon,
marketing furtif. C'est en partie cela, parce que le marketing furtif, ça peut être aussi vraiment un résultat de vos consommateurs si votre marque est une brand love, comme on dit, ça vous ne l'avez pas identifié dans le dictionnaire, si votre marque est une brand love et que vos consommateurs ont spontanément, naturellement envie d'en parler, c'est du marketing furtif à votre bénéfice, mais sans que vous y soyez pour quoi que ce soit. Marketing furtif, il est souvent très négatif quand on se plaint de votre marque, quand on la critique, mais quand c'est positif, vous n'y êtes pour rien, vous en bénéficiez pleinement, et là il n'y a pas de problème de transparence puisque vous n'en êtes pas à l'origine.
Absolument, le vrai marketing du bouche à oreille, bien éthique et respectueux, et fait par les clients eux-mêmes, tout ça c'est tout à fait autorisé. Alors on va passer au troisième mot, à la page 158. Un mot dont tout le monde parle, la raison d'être.
La raison d'être, oui, ça c'est le sujet à la mode aujourd'hui dans le milieu de l'entreprise. Mais un sujet que j'ai mis ce mot dans le dictionnaire parce qu'il a un impact sur la communication, sur la prise de parole, sur la communication corporate, financière, RSE. Donc je pensais que c'était intéressant de le mettre, puis pas la peine d'attendre la deuxième édition puisque de toute façon on l'y aurait retrouvé. Donc la raison d'être, ça désigne la finalité d'une entreprise. En France, c'est la loi PACTE de 2019 qui permet d'inscrire la raison d'être d'une entreprise dans ses statuts. Donc c'est assurément un sujet de communication qui n'a pas encore de règles d'usage parce que c'est vraiment très récent. Chaque entreprise disposant d'une raison d'être communique de façon plus ou moins discrète aujourd'hui sur le sujet. Voilà.
Ouais, on a eu Danone qui communiquait pas de façon très discrète. Malheureusement, ça n'a pas très bien fini là récemment.
Vous m'avez bien entendu, j'ai dit plus ou moins discrète, effectivement, avec des finalités qui peuvent être aussi différentes pour les dirigeants.
Alors, on a la raison d'être, on connaît bien maintenant. Ah, voilà un autre mot qui m'a interpellé. Page 180, le storytelling.
Alors le storytelling, déjà c'est un mot anglais et effectivement j'ai choisi dans ce dictionnaire de prendre vraiment les mots d'usage, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, qu'ils soient franglais, qu'ils soient parfois latins. Voilà un mot anglais. Moi je suis vraiment un défenseur de la langue française, alors ça peut paraître étonnant de proposer un dictionnaire dans lequel on retrouve plusieurs langues, mais je suis pas non plus un dogmatique. Autant je peux regretter qu'il y ait des mots. Je vais prendre le mot cuté. Le mot cuté, il est très souvent utilisé dans le monde de l'agence.
J'ai vu aussi, c'est dans le dictionnaire.
Cuté, ça veut dire coupé. Là, je, je trouve ça un peu aberrant qu'on remplace exactement un mot par un autre alors que le mot français peut parfaitement faire l'usage. Il y a d'autres mots, ça peut être aussi d'ailleurs juste des simples traductions, où l'usage fait que, la sonorité fait que c'est ce mot anglais qui est utilisé. Donc je c'est pas la peine de venir en petit soldat pour essayer d'imposer la version française que personne n'utilisera plus jamais. Donc voilà, j'ai voulu être très pragmatique. Il y a des mots qui sont des mots anglais et voilà, ce sont les mots d'usage, donc je les ai pas écartés et je les ai définis comme d'autres. Donc storytelling, c'est un mot anglais, c'est une communication narrative ou art de raconter des histoires. Au service d'une marque, le storytelling permet de capter l'attention grâce à une histoire qui permet à la marque d'exister dans un contexte narratif. L'exemple le plus symbolique est celui de la marque Michelin et de son guide éponyme. Le fabricant de pneumatiques fournisseur de l'industrie automobile a permis de valoriser sa marque en racontant aux automobilistes les routes de France, en leur faisant découvrir les meilleurs restaurants grâce à un guide devenu une référence, devenu presque une marque lui-même aujourd'hui.
C'est devenu un produit lui-même, puisque c'est même une société à part, hein, le guide Michelin. Oui, c'est impressionnant. C'est un des deux inventeurs du content marketing, qui est notre métier. Donc, on a un peu de respect quand même pour ces belles marques.
Je ne sais pas qui portait pour le second, mais on dit souvent que le storytelling a été inventé par Disney. Je pense qu'on peut dire qu'il a été, en tout cas en France, inventé par Michelin.
Oui, c'est possible. Alors, il y en a qui citent aussi John Deere avec The Farrer, 1895, un des premiers journaux d'entreprise, qui en plus est un journal d'entreprise dans un esprit content marketing, donc non orienté produit, assez intéressant, et qui existe toujours, encore aujourd'hui, 120 ans après. C'est impressionnant.
C'est incroyable.
Petit dernier pour la route, alors j'ai gardé le meilleur quand même, page 37, communication. Alors là, ça, en fait, c'est une sorte de mise en abîme, quoi. C'est la communication à l'intérieur du dictionnaire de la communication.
Alors là, tenez-vous bien, parce que la définition, c'est probablement la plus longue de ce dico de la com, mais si ce n'était pas le cas...
Bon, je vais aller manger et puis je reviens après.
Hein. Restez avec moi 5 minutes. Si ce n'était pas le cas, ça ne serait peut-être pas logique. Donc voilà, et c'est une définition un peu sous une forme de tribune, quelque part. Donc la communication, au sens premier, c'est un code commun à une espèce humaine ou animale permettant de transmettre une information ou une émotion par le langage. La communication verbale ou gestuelle, des attitudes, des comportements et la communication non verbale. Ça, c'est peut-être la partie de définition académique. La suite de la définition me permet de préciser que la communication, c'est aussi un métier. C'est une des fonctions les plus fantasmées, désirées ou détestées. C'est même un écosystème de métiers qui évolue à très grande vitesse, principalement depuis l'explosion du numérique. C'est une fonction qui s'est tardivement professionnalisée et qui exige toujours beaucoup de pédagogie, tellement elle semble insuffisamment connue, autant par ceux qui pourraient la réduire à un gadget, parfois coûteux et futile, et par d'autres qui s'imaginent compétents pour l'exercer. Est communicant celui qui sait exploiter une idée et la valoriser, donner du sens au choix d'une couleur, écrire un discours impactant à prononcer. N'est pas communicant celui qui parle le plus fort ou impose ses vues, mais plutôt celui qui sait convaincre et parfois même se taire. Est communicant celui ou celle qui est capable d'avoir une vision globale d'un projet, qui s'inscrit dans une stratégie, qui en maîtrise et en assure la mise en œuvre, tant au niveau des moyens humains que budgétaires, en tenant compte des contraintes techniques, juridiques ou calendaires, avec des exigences opérationnelles et rédactionnelles, typographiques et graphiques. Et communiquant celui ou celle qui est capable de gérer une réputation ou une crise, à une époque où l'instantanéité rythme les journées au son des notifications des smartphones. Et communiquant celui ou celle qui est capable de s'engager et donc de décider. Car communiquer, c'est aussi maîtriser son calendrier, garder le contrôle de son image et de son discours. Il n'est pas facile, d'être performant en communication, notamment quand tout le monde estime pouvoir faire mieux que vous. C'est là où j'aime citer le psychiatre Carl Gustav Jung, qui dit « Réfléchir, c'est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent et donnent leur avis, évidemment sans légitimité professionnelle. Et un point de vue personnel, affectif et gratuit peut devenir dans l'entreprise une position faisant autorité du fait de la simple position hiérarchique de l'intéressé dans l'organisation, et ça c'est dangereux. Une consigne non professionnelle peut même amener à commettre des fautes techniques, juridiques, éthiques, typographiques. Quand ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre métier. » Le communicant n'est ni un marchand de rêves, ni un faiseur de miracles. La communication n'est pas non plus la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Associer la com à la fin d'un projet, c'est de l'incompétence ou une faute professionnelle de la part du chef de projet ou de sa hiérarchie. C'est pourtant parfois encore le cas, suivant l'entreprise, l'autorité qui est accordée à la communication est l'autorité professionnelle de celui ou de celle en charge de la diriger. Voilà, la communication, c'est un vrai métier, rigoureux et de labeur. C'est un métier de disponibilité vis-à-vis des autres, où on ne compte pas ses soirées ni ses week-ends. C'est un métier artistique qui permet aux créatifs de s'exprimer, mais aussi juridique, technique et logistique, qui impose le respect de règles et de processus. Et si elle bénéficie de plus en plus d'outils, la communication est un métier dont les résultats ne sont pas scientifiquement garantis et qui conserve donc une part d'incertitude liée aux aléas de l'humain, de la technique, de l'actualité, de la météo, de la politique et ou de tout un événement imprévisible. Voilà ce qu'est la communication dans le dico de la com tel que je la vis depuis 36 ans et que j'essaye de la partager avec le plus grand nombre de mes pairs.
Avec enthousiasme, et ce que j'en conclus, c'est que c'est un joli métier, et peut-être ce serait le mot de la fin. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent, heureusement, qui sont en réflexion sur leur futur professionnel, ou qui sont en train de rentrer dans le monde professionnel, ou qui viennent de rentrer dans le monde professionnel? Qu'est-ce que vous leur conseillez autour de la communication? C'est un métier que vous leur conseillez, et vers quoi faut-il qu'ils se tournent?
C'est plus qu'un métier, c'est donc un écosystème de métiers. Il y a énormément à faire. Ça peut permettre d'attirer d'énormes compétences, qu'elles soient techniques, créatives. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire dans les métiers de la communication. Il y a certainement beaucoup d'avenir. On voit des métiers nouveaux qui apparaissent tous les jours dans ces métiers. Donc, oui, c'est un très beau métier. Il y a beaucoup à faire. C'est pas toujours le métier encore le plus reconnu. Donc, il y a aussi un travail de pédagogie à faire pour se faire reconnaître, pour faire reconnaître ses compétences. Mais il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour la jeunesse et il y a de la place pour le talent.
Eh ben, c'est une belle conclusion. Merci Frédéric. On souhaite longue vie au Dico de la communication et à bientôt sur les podcasts de Visionary Marketing.
Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.